Biston klack, biston klack, biston klack, nous aimons la chanson française. Biston klack, mais nous détestons les fadaises, qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se pèle l'apôtre, cette phrase est notre devise. Notre devise, biston klack, biston klack, biston klack. D'accord pour les chanteurs, poètes. Biston klack, né dans le Rhône ou à Perpète, suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre. Voilà notre philosophie, philosophie. Biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack.
Alors là, c'est pareil, moi. Et quand il y a eu la médaille de résistance, je ne savais pas que je l'avais.
Mais ça, c'est juste après la guerre. Vous n'étiez pas là.
Mais oui, mais moi, j'étais,
quoi.
J'étais plus là pour le savoir.
3 janvier 1946.
Et j'étais plus là pour le savoir, moi. Alors, mon père, il m'avait. C'était marqué sur le journal. Il m'avait envoyé le truc sur la mesure. Je n'ai rien fait. Donc, après, je suis resté à Djibouti, démobilisé. J'ai fait mes papiers bien longtemps après. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que pour nous c'était fini. Hein, on y... ouais. Et beaucoup de résistants ont pris le boulot et puis ça a été fini. Il y a un peu plus tard que ça a réagi un peu parce que, bon, il y avait toujours les mêmes.
Et vous, personnellement, vous avez commencé à vous intéresser à cette période à quel moment ? Après votre retraite ou avant quand même ?
Oh, ben, il n'y a pas bien longtemps.
Pas bien longtemps.
Maintenant, ça marche parce qu'il y a beaucoup moins.
Il y en a moins.
Et c'est ça.
Là, vous êtes actuellement à l'ANAC Villeurbanne. Vous êtes président de l'ANAC Villeurbanne.
Je suis président de l'ANAC Villeurbanne et secrétaire général du Rhône
de l'ANAC.
De l'ANAC. Ah oui, ça c'est le don que j'ai fait de à la CGT de tous les tracts qu'on avait tirés. Mmh. Un coup, il me l'avait demandé, alors il y a toute la liste là.
À l'Institut d'Histoire CGT, non ?
Voilà, oui.
C'est bien.
Et je leur ai donné tout ça.
Ah oui. Vous aviez gardé les tracts
Ah oui, mais c'était interdit.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire.
Alors, avec le pote.
Oui, et planqué où
je ne sais rien. Et avec le pôle, il y avait toujours dans les usines, comme ils connaissaient d'environ. C'était les plus vilains qu'on gardait, hein, parce que pour qu'ils aient moins lisibles. Mais on les distribuait dans les usines ici, en plus des autres. Ils en donnaient à des copains espagnols, tout ça.
Bonsoir, notre émission de ce jour est la première d'une série de deux consacrée au résistant Jean Batias. Jean Batias est un Lyonnais né le 12 juin 1926 à l'Hôtel Dieu, hôpital de la Charité à l'époque. Il fit ses études de mécanique boulevard des Tchécoslovaques, boulevard des Hirondelles à l'époque, et tout jeune dut entrer dans le monde du travail à Villeurbanne, ville à laquelle il allait rester attaché depuis la période de la guerre jusqu'à aujourd'hui. Dès 1943, il eut des activités de résistance avant de passer dans la clandestinité avec comme activité principale celle d'un appareil technique pour les FTP. Activité qui allait le mener jusqu'à la fin de la guerre où il participa à la libération de Pusignan et de Villeurbanne. Nous allons donc évoquer avec lui son parcours et ses luttes au fil de ces deux émissions. Cette première émission est consacrée plus précisément au thème de l'histoire de sa jeunesse, puis de son engagement de clandestin FTP jusqu'à son action dans les groupes de combat à Pusignan en août 1944. Merci de votre attention et bonne écoute.
Peuple souverain, quand sur les Bastilles, demain le soleil mettra sa clarté, viens clamer au ciel que tu veux qu'il brille pour le pain, la paix et la liberté. Quand le blé français pourrit dans les granges, pourquoi le chômeur n'a-t-il pas de pain? Lorsque l'on détruit le fruit des vendanges, pourquoi le chômeur n'a-t-il pas de vin? Peuple, quand la faim creuse ta poitrine et qu'à tes appels le puissant dit non, pourquoi permets-tu que dans les usines des maîtres ventrus forgent des canons? Quand l'enfant du pauvre est sans nourriture, pourquoi les pourceaux ont-ils trop de lait? Quand le travailleur n'a qu'une masure, pourquoi la faveur a-t-il des palais? Peuple souverain, quand sur les Bastilles demain le soleil mettra sa clarté, viens clamer au ciel que tu veux qu'il brille pour le pain, la paix et la liberté.
On va peut-être repartir depuis le tout début, quoi. Votre lieu de naissance et votre date de naissance,
c'était... Ben, c'est le 12 juin 1926.
C'était à Lyon ou vous étiez...
À Lyon, à l'hôpital de la Charité.
La Charité, l'Hôtel Dieu.
L'Hôtel Dieu, là, voilà. Mm-hmm.
Donc vous êtes lyonnais. Et votre enfance, vous l'avez aussi passée dans le deuxième arrondissement
Non, dans le troisième. Dans le troisième. Parce que mon père, il était infirmier à l'hôpital du Vinatier, là. Et ma mère, elle travaillait à Grange Blanche, elle, comme femme de service.
Dans l'hôpital aussi, quoi. À Grange Blanche, à
l'hôpital. Oui, oui, elle était dans l'hôpital aussi. Ouais.
Donc une scolarité,
mon chat, normal. Et puis quand la guerre, je me souviens de 36.
Vous avez des souvenirs de 36?
C'est-à-dire le seul souvenir que j'ai vraiment, c'est l'hôpital des Genettes qui est maintenant. C'était un terrain militaire où ils s'entraînaient tout ça. Puis nous, les gosses là, du coin, du Vinatier, quoi, on allait jouer sur ce terrain-là et tout ça. On jouait aux petits soldats aussi. Et puis il y a 36, quand ils ont commencé avant 36, les construire, et ils ont barricadé, c'était fini. Et puis mon père, lui, il jouait au boule au Vinatier, alors il m'emmenait là des fois où on allait le chercher avec ma mère. Et les grévistes de 36, ils étaient sur la route et ils étaient déguisés, ils faisaient la quête, tout ça. Et c'est le souvenir qui me reste. De mon enfance. Là, j'avais 12...
10 ans.
10 ans.
26, 36, ça fait 10 ans.
10 ans. Alors, ils faisaient les ours, là, enfin... Et puis, ils faisaient la quête tout le long.
Votre père n'était pas gréviste, vos parents n'étaient pas...
Ah non, dans l'hôpital, il n'était pas... Mon père, il n'était pas politique.
Baguette sur la peau, chambre. Et mon ours va vous faire quelques-uns de ses tours. Le museau vers les anges et au bout une orange. Un petit air de musique, il vous danse la chic. Il fait peur, il est dérisoire, se balançant de ça, de là, comme s'il portait à bout de bras le monde et vos pauvres histoires. Approchez, venez voir tous, dansez la danse de l'ours, faites pleuvoir un peu vos sous, et alors moi, je vous joue la musique de carnaval qui fera danser l'animal. C'est mon copain, il me gagne mon pain. Mais faites attention pourtant, car il a toutes ses dents. De bourgade en village et autour de la terre, on se promène tous les deux, c'est vrai qu'on fait la paire. Cet ours, c'est mon copain, il me rend magicien. Change en or la poussière dans le rond de lumière. Et quand je soupe, moi, son maître, en le lorgnant par la fenêtre, puis enchaîné à un anneau qui servait avant aux chevaux. Les chiens montrent les dents en un cercle prudent. Les enfants, sans parler, les fixes fascinés. Approchez, venez voir tous, dansez la danse de l'ours. Faites pleuvoir un peu vos sous. Et alors moi, je vous joue la musique de carnaval qui fera danser l'animal.
Et après, vous avez passé le certificat d'études et...
Eh bien, le certificat d'études, bon, après, c'est pendant la guerre. La guerre a été déclarée en 39, là. Et quand l'Italie est rentrée en guerre, on est parti chez un de mes oncles, enfin, des tantes plutôt, mes tantes, à Chaponneau. Donc je suis allé à l'école là-bas, et là le souvenir que j'en ai, c'est que j'allais à l'école, mais chez les frères, parce que les vieux étaient plus catholiques et tout ça, chez les frères, et puis ils avaient remis leur soutane là, après la massacre, parce que... Et puis j'ai été passer mon certificat d'études à Saint-Genis-Laval. Puis je l'ai loupé. Puis on est revenu sur Lyon, quoi. Et là, je suis allé retourner à l'école. Mais pareil, chez les frères, pas chez l'église des catholiques, quoi. Privé, mais pas, c'était pas des frères. Là. Puis là, la deuxième année, j'ai réussi le certificat. Alors après.
Et quand vous dites que vous êtes parti au moment où l'Italie est entrée en guerre, il y avait un rapport, non? C'est juste.
Ben, ils avaient peur des bombardements, tout ça.
C'est pour ça que vous étiez parti.
Alors, on a dit à la campagne, les gosses, on était trois, quatre.
Et après le certificat, vous êtes engagé dans une formation professionnelle, apprenti.
Après, je suis rentré à l'école professionnelle Boulevard des Tchécoslovaques, qui s'appelait à l'époque Boulevard des Hirondelles. Et on allait faire la gymnastique au Fort Montluc. Et là, j'ai eu des Allemands qui avaient tout juste notre âge, un peu plus, un an de plus, qui s'entraînait avec les mitrailleuses, les mitraillettes, tout ça, à l'assaut, tout ça. Et puis bon, c'est pas ça qui m'a donné l'idée de les engueuler, mais enfin, pour dire que c'était déjà. Et là, je devais faire deux ans ou trois ans, je ne m'en rappelle plus, mais j'ai fait un an, et puis bon, j'ai cherché du travail, parce que bon, ça tirait quand même. Et j'en ai trouvé là, à Villeurbanne, une petite boîte.
C'était déjà de la mécanique?
Ajusteur-monteur, oui. On faisait... Alors, c'était une petite boîte, mais on faisait tout là-dedans. On était encore apprenti. Mais bon, vous alliez autour, on vous expliquait. Après, c'était une fraiseuse, suivant les besoins, à tremper, à faire tous les métiers du machin. C'est pour ça que j'ai une très bonne formation là, avec l'apprentissage.
Chaque matin, dès le petit jour, de la pendue à la pendule qui n'en finit pas de traîner. Quand tu n'as pas d'autre horizon que les vitres d'un bureau d'études qui ont toujours l'air de te surveiller. Quand tu n'as pas d'autre musique que le ramdam métallurgique, trépidation sur des rythmés. Tu n'as pas d'autre soleil que la lumière censurée par le verre des polis du toit. Quand tu n'as pas d'autre plaisir que le plaisir de te planquer aux chiottes quelques minutes pour y rêver. Quand les annuels congés payés grossis de quelques jours fériés sont tes seules dérisoires fêtes. Vacances. Quand tu n'as pas d'autre avenir que le sans histoire qui fait vieillir, et puis la mort au bout de la retraite. Quand tu n'es rien, quand tu n'as rien, t'as rien à perdre, t'as rien à perdre.
C'est là que j'ai connu Paul et qu'un jour il m'a dit, ben tu viens.
Il était plus âgé que vous
Un an de plus.
Un an de plus.
Mais ses frères et tout ça, et qui est lui, qui était beaucoup plus âgé, était déjà dans la résistance.
C'était à quelle date, ça, vous vous souvenez, à peu près?
C'était 43, d'ailleurs, attendez voir. Octobre 43 au 31 août 44. Ben, j'ai commencé
et
là.
Et en fait, vous avez commencé en octobre 43.
Oui, un peu avant, parce que ça, c'est... on avait tiré la période où on mettait les tracts à Montchat, ou dans la vie urbaine, on ouvrait les portes du bistrot, on jetait les tracts, et puis on cavalait. Après, puis... Après une grève ici, le Paul, il a été mis à la porte. Et moi, il m'avait. Tous les matins, quand j'arrivais pour travailler, il m'enfermait dans le magasin et il me donnait mon boulot pour pas que je contamine les autres.
Ah ouais, il me tirait.
Et puis de là après, on est rentré dans la résistance comme permanent. On a eu une période de trac, de faire des trucs, tout ça. Mais...
Et au tout début, dans votre esprit, c'était quoi? C'était vraiment de vous battre contre les Allemands que vous aviez envie, ou c'était...
Il y avait de ça aussi. Il y avait ça parce que c'est vrai que, bon, il y avait mon oncle sur la guerre de 14 et tout ça. Et on avait parlé tout le temps, tout le temps. Et puis, à l'école laïque, tout ça, c'était une sorte de propagande, hein, parce qu'on parlait de la Troisième République, de l'Empire français, de ci, de là, on allait les amener à se... diriger eux-mêmes, mais bon, après, quand j'ai vu plus comment c'était, enfin, c'était comme ça. On avait, et puis, avec le Paul là-dedans, et puis ses frères et tout ça, et eux, c'était la guerre d'Espagne aussi qu'ils avaient faite, et tout, et c'est toute une influence.
Lui, il était très politisé.
Ah, mais il était politisé. Moi, je n'étais pas du tout, hein,
politisé, parti communiste, socialiste.
Communiste.
Donc c'était votre ami et vous l'avez suivi volontiers.
Voilà, c'est ça. Et puis après, on a tous les deux, on a été permanents, on ne travaillait plus, c'était la résistance.
Donc c'était FTP, vous étiez FTP.
C'était l'action ouvrière des murs, quoi. Mmh. Ça faisait partie de la du Front National communiste.
Et le groupe auquel vous apparteniez, il avait un nom? Vous aviez une... pas spécialement.
On avait tout un système de...
C'était un groupe de Villeurbanne.
Sur Villeurbanne, par exemple... Bon, je vais y retrouver. Notre groupe, nous, on était par triangle. Il y avait Paul, moi, et un homme beaucoup plus âgé au-dessus. Et nous, on ne connaissait pas les autres triangles. C'est lui qui était au-dessus, après, avec un autre triangle, et ainsi de suite. Alors... Et puis nous, notre boulot, c'était de tirer les tracts à Craponne, d'abord. Ils avaient une villa qui avait été louée par où qui appartenait, je ne sais pas, au commissaire de police de Villeurbanne de l'époque. Mais on n'a jamais connu, nous, de commissaire non plus. On savait que c'était un commissaire, mais on ne l'a jamais vu, mais tout ça. Et évidemment, il y avait la relation avec un groupe franc, un groupe franc de Jim et Tito, qui, quand on avait besoin de ci, de là, c'est eux qui faisaient un coup de main. Et s'ils faisaient un autre coup de main, et nous, on y allait en renfort. C'est la seule moment où on était armés, nous.
Vous étiez plutôt dans l'appareil technique, comme ils appelaient
l'appareil technique de l'action ouvrière.
Et ponctuellement, ils vous demandaient d'intervenir.
C'est ça. Et nous aussi, on lui demandait aussi. Parce qu'une fois, à Craponne, on était installé dans la villa. Alors bon, c'était une Renéo, il fallait du papier, il fallait de l'encre, il fallait tout ça. Mais nous, on était ajusteurs, on n'était pas, pour taper la machine, c'était pas la même chose. Enfin, le Paul, il se débrouillait bien. Alors c'est lui qui tapait la machine et moi je faisais les dessins dessus et puis le tirage. Et même pour débuter à la Renéo, vous allez rigoler, on ne savait pas, nous. On tournait, il passait 15 feuilles ou plus dans le machin. Finalement, Je ne sais pas si on nous l'a dit ou si machin, il fallait écorner la main de ça allait, après ça allait
les yeux. Il faut apprendre, hein, il y a un peu de technique comme dans tout.
Voilà.
Vous logiez dans cette villa ou...
On y couchait des fois, oui, mais en principe non, parce qu'il fallait ramener les trains. Ah, oui. Alors,
on prenait les comment
ben, dans des valises. Et on a fait ça pendant un bout de temps, puis on a bien dit à nos chefs que quand même, c'était un peu bizarre pour les gens de voir passer les jeunes
là, c'est valises,
tout le temps avec des valises. Alors, ils croyaient qu'on faisait du marché noir ou n'importe où. Alors nous, on leur avait dit qu'on était maçons. Alors là aussi, quand on est allé là-bas, puis on mangeait dans le... Ça s'appelait le... Attends, maintenant... Au pont Chabrol, là-bas, sur la route de Brindan-Craponne, et il y avait... Le pont Chabrol, puis il y avait un petit ruisseau, tout ça. Puis il y avait un restaurant, là, tout ça, et on allait manger là-bas. Alors bon, au bout de 2 jours qu'on a été, tout ça, plusieurs fois, et le patron là-bas, il vient, et puis il me dit, ben, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, lui dit, on est en train de travailler dans une villa plus loin, pour la remettre en état, tout, et puis moi, je... Il dit, eh ben, vous êtes maçon, tout ça. Oh, je lui dis, moi non, je suis électricien. Alors, il me dit, ben, ça tombe bien, il est pas la chambre de ma belle-mère, l'électricité, elle marche plus. Je dis, oui, j'ai pas le temps de le faire pour l'instant. Et puis, on a traîné, mais il a fallu qu'on la répare quand même. Alors, mais le plus grave, c'est qu'on mangeait le long de la fenêtre, nous. On dit, parce que si. On partira par derrière, parce qu'après c'était la campagne et tout ça, et les toilettes étaient au fond, alors on pouvait se dire. Et un jour, on était là, machin, on voit arriver une traction, avant noir, et on est avec Paul, oulala, attention, la porte s'ouvre, il descend un milicien, alors on se lève, et puis juste il rentre, le milicien, il n'y en avait qu'un. Alors, bon, ben, Il passe derrière le comptoir, il va embrasser le patron, c'était le fils du patron. Alors là, on n'a pas bien su ce qu'on faire, nous, les deux jeunes. Là, nous. Alors on a averti nos supérieurs, tout ça. Et puis, ils nous ont dit, bon ben, on va vous envoyer un gars pour voir la situation, tout ça. C'était Jim. Jim, il vient, il arrive, avec, pareil, en traction, lui aussi, habillé en milicien. Et il se fait bien voir avec nous, à table et tout. Il dit, comme ça, ils vous foutent la paix. Mais c'est que nous, on les avait comme ça.
Oui, bien sûr. Vous n'étiez pas armé, vous, de toute façon.
Non, on a été armé après. Parce qu'on a réclamé quand même. Parce que plusieurs fois, on a dit, pour s'en tromper. Parce que la villa était juste. Il y avait un champ et puis des bois un peu dessous, d'ailleurs, du ruisseau qui passait par là après. Et on pouvait s'échapper par là. Mais.
Et vous êtes resté combien de temps dans cette villa ?
Oh ben, depuis le début, presque jusqu'à la libération, hein.
Ah oui.
Parce que avant, un peu avant,
un
parce
peu avant,
que
enfin,
le mois d'août, quoi,
oui,
tout
oui,
ça.
Oui,
enfin, et parce que nous, on a été à la libération, on a fait le coup de main avec Jim et Tito, tout ça. Pour libérer les prisonniers politiques de l'Anticaille.
On en parlera un petit peu.
Voilà.
On va suivre la chronologie.
Et donc, vous voyez, donc on a travaillé tout le temps. On a fait les tracts. On a fait les derniers tracts. Ben, je vous les ferai
presque
voir
un an, et vous n'avez pas attiré l'attention. Vous n'avez jamais eu une descente de la milice.
Non. On prenait le train, là, tout ça. Sauf un matin, parce que quand des fois, on travaillait toute la nuit. Et un matin, on regardait par le volet s'il n'y avait rien. Là, on voit une voiture allemande là, avec un gyro, pas un gyrophare, un gyro. Et puis ils avançaient doucement, ils reculaient. Ils putain, ça y est, ils sont en train de chercher un poste émetteur. C'était pas nous, de toute façon, qu'ils cherchaient. Alors. On a attendu jusqu'à midi qu'ils partent, finalement.
Et avec vos valises, jamais un contrôle sur le trajet ou en arrivant à Lyon ?
Non, on n'avait pas de... On n'a jamais eu de contrôle. On descendait à Fourvière, là où on prenait la... Pas Fourvière, Saint-Just, je crois. Saint-Just. On prenait la ficelle, enfin, la crémaillère, là. Et on prenait le... Et avant, et c'était le... tramway le numéro 1, et on allait à Grange Blanche déposer, pas dans l'hôpital, déposer nos tracts imprimés dans un vieux garage, un garage. Alors il y avait des fois le papier neuf, tout ça, on n'a jamais vu personne.
Ah oui.
On déposait nos tracts et on prenait le papier.
Le travail s'arrêtait là.
Et le stencil, qui est imprimé déjà, il y en avait qui étaient tout frappés par les produits chimiques, par l'OTL, et tout ça. Quoi. Et puis d'autres, ben, il fallait taper le stencil aussi, ça dépendait. Alors celui-là, je vais vous raconter l'histoire aussi. Ça, les couvertures, c'est moi qui les ai sur le stencil à la roulette.
Stencil, oui.
Et le polytapel, lui. Alors, en bas, là, en Rio.
Oui, en Rio, voilà. Depuis Pucheux, tu trompes.
Alors là, je vais vous raconter. Quand on a tiré ce journal, et puis, à la fin, vous allez voir. À la dernière minute, on a rajouté ça, parce qu'ils nous avaient envoyé des copines pour agrafer un peu tout, parce qu'il y en avait, on avait tiré, je me rappelle. Quand on a eu fini de tirer ce truc-là, la nuit, le lendemain, on est descendu, comme d'habitude, avec nos valises pleines de tracts comme ça, là, et on arrive à Fourvière, là-bas, à Saint-Jean, je crois que je veux dire. On sort du funiculaire, la place en face de devant, noire de miliciens. Miliciens, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je dis, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas bien. Hein. Alors, finalement, je dis au Paul, bon, tu restes là, et tu gardes les valises, hein, et puis. Parce que Paul, c'était lui qui était commandant, qui était responsable. Moi, j'étais aussi, mais enfin, c'était lui. Alors, parce que lui, il avait un type bien espagnol. Hein, il était typé, quoi. Mm-hmm. Finalement, je vois un officier de la milice. Je vais vers lui. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, vous savez pas, ils ont assassiné Henriot, ces salauds. Ah ben, je lui dis, merde, alors. Alors, j'ai dit, mais nous, moi, le copain qui est là-bas, on est drôlement embêtés. On a été réquisitionnés pour l'OSCO, il faut qu'on prenne le train à Perrache. Et il me répond, mais vous pouvez y aller, c'est, la cérémonie n'est pas commencée. Ils avaient fait un catafalque, tu sais, dans une cérémonie. Alors, je parle avec le Paul, on a vite passé avec nos valises, et puis on est monté dans le premier tramway, et on n'allait pas à Perrache. Et ben après, tous les deux, on rigolait, des fois, on disait, mais complètement...
C'est pas ce tract-là, parce que vous n'aviez pas encore eu le temps d'écrire ça, à ce moment-là.
Si. Parce que les filles qui étaient venues nous donner la main, elles nous l'avaient dit. Il a été fusillé, enfin. Ouais, c'est pour ça qu'on a été obligé de le rajouter, ce qui n'était pas prévu dans le journal. Mm-hmm. Alors, celui-là, j'ai dit, c'est le coup le meilleur.
C'est les groupes francs de l'AS qui l'ont descendu.
Exactement, tiens.
Des salauds ressemblent à Hitler, Hitler au Führer et le Führer à Henriot. Ce qui fait qu'en fin de compte, le roi des salauds ressemble à Henriot comme deux gouttes d'eau.
Veuillez écouter maintenant Bagatelle sur un tombeau. Monsieur Henriot s'obstine. Monsieur Henriot est buté. Monsieur Henriot ne veut pas parler des Allemands. Je l'en ai pourtant prié de toutes les façons, par la chanson, par le texte, rien à faire. Je ne me suis attiré qu'une réponse pas du tout aimable, ce qui est bien étonnant, et qui, de surcroît, ne satisfait en rien notre curiosité. Pas question des Allemands. C'est entendu, monsieur Henriot. En vertu de votre théorie raciale et national-socialiste, je ne suis pas français. À défaut de Croix-Gamée et de Francisque, j'ai corrompu l'esprit de la France avec le Samuel. Je me suis, par la suite, vendu aux Anglais, aux Américains et aux Soviets. Et pendant que j'y étais, je me suis également vendu aux Chinois. C'est absolument d'accord. Il n'empêche que tout ça ne résout pas la question. La question des Allemands. Nous savons que vous êtes surchargé de travail et que vous ne pouvez pas vous occuper de tout, mais tout de même, je suis persuadé que les Français seraient intéressés au plus haut point si, à vos moments perdus, vous preniez la peine de traiter les problèmes suivants dont nous vous donnons la nomenclature, histoire de faciliter votre tâche et de vous rafraîchir la mémoire. Premièrement, le problème de la déportation et des camps de la mort. Deuxièmement, le problème des prisonniers. Troisièmement, le traitement des déportés et des prisonniers. Quatrièmement, le statut actuel de l'Alsace-Lorraine et l'incorporation des Alsaciens-Lorrains dans l'armée allemande. Cinquièmement, les réquisitions allemandes et la participation des autorités d'occupation dans l'organisation du marché noir. Sixièmement, le fonctionnement de la Gestapo en territoire français et en particulier les méthodes d'interrogatoire. Septièmement, les déclarations du Führer dans Mein Kampf concernant l'anéantissement de la France. Peut-être, me répondrez-vous, monsieur Henriot, que je m'occupe de ce qui ne me regarde pas. Et ce disant, vous serez logique avec vous-même, puisque, dans le laïus que vous m'avez récemment consacré, vous vous écriez notamment « Et où nous atteignons les cimes du comique, c'est quand notre DAC prend la défense de la France. » La France, qu'est-ce que cela peut bien signifier pour lui ? Eh bien, monsieur Henriot, sans vouloir engager de vaines polémiques, je vais vous le dire, ce que cela signifie pour moi, la France. Laissez-moi vous rappeler, en passant, que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et d'autres, avant eux, sont originaires du pays d'Alsace, dont vous avez peut-être, par hasard, entendu parler, et en particulier de la charmante petite ville de Niederbronn, près de Haguenau, dans le Bas-Rhin. C'est un beau pays, l'Alsace, monsieur Henriot, où, depuis longtemps, on sait ce que cela signifie la France, et aussi ce que cela signifie l'Allemagne. Des campagnes napoléoniennes, en passant par celles de Crimée, d'Algérie, de 1870-71, de 14-18, jusqu'à ce jour, on a dans ma famille, moi y compris, monsieur Henriot, lourdement payé l'impôt de la souffrance, des larmes et du sang. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Alors, pourquoi ne pas nous dire ce que cela signifie pour vous, l'Allemagne ? Un dernier détail, puisque vous avez si complaisamment cité les prénoms de mon père et de ma mère, laissez-moi vous signaler que vous en avez oublié un, celui de mon frère. Je vais vous dire où vous pourrez le trouver. Si d'aventure vos pas vous conduisent du côté du cimetière Montparnasse, entrez par la porte de la rue Froidevaux. Tournez à gauche, dans l'allée, et, à la sixième rangée, arrêtez-vous devant la dixième tombe. C'est là que reposent les restes de ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon, fauché par les obus allemands le 8 octobre 1915 aux attaques de Champagne. C'était mon frère. Sur la modeste pierre, tous ses noms, prénoms et le numéro de son régiment, on lit cette simple inscription. Mort pour la France à l'âge de 28 ans. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura aussi une inscription. Elle sera ainsi libellée. Philippe Henriot, mort pour Hitler, fusillé par les Français. Bonne nuit, monsieur Henriot, et dormez bien, si vous le pouvez.
Voilà tous les tracts qu'on a tirés. Et moi, je vous ferai voir les...
Ça a fonctionné jusqu'à la libération.
Oui.
Vous avez...
oui.
C'est bien, mais vous... enfin, c'était bien organisé. Vous avez...
On a fait... Jusqu'à avant l'insurrection, on avait fait les tracts de la mobilisation générale, et tout ça, de se tenir prêt. Bon, ça a démarré avant qu'on soit d'accord, mais enfin. Et puis voilà.
Il y a des anecdotes dans cette
alors,
vie. En neuf mois, il a dû s'en passer des choses.
Parce que nous aussi, on avait marre de ça. On est jeunes comme on était. Alors on disait, on va aller au maquis. Alors on écrivait à nos chefs, ils nous répondaient que. Ils nous ont répondu la première fois que la résistance avait besoin de tout le monde et que. Mais qu'on faisait quand même le nécessaire pour essayer de nous envoyer au maquis. Bon. Et ça s'est jamais fait, quoi. Parce que on a même écrit pour demander une augmentation, mais on n'avait pas de rien.
Et vous aviez des jours de congé, des périodes où vous descendiez à Lyon dans
non,
la famille.
On a fait des missions un peu, dont une à Curcia d'Ongalon, pour récupérer des armes par parachutage. Quand on est arrivé là-bas, il n'y a pas eu de parachutage. Mais ils nous avaient donné deux revolvers. Et c'était toujours ça pour les. Parce que les armes, en ville et tout ça, c'était pas. Hein. Et puis c'était l'histoire des parachutages, il ne fallait pas qu'ils parachutent aux communistes, c'est pas tellement. C'était déjà. Alors. Il y a des maquis qui partageaient, mais il y en a d'autres qui...
Et votre départ, le moment où ça s'est arrêté, donc c'est vraiment quand on a eu besoin de vous ailleurs pour la libération, la fin de votre séjour dans la villa?
Non, pas spécialement. Quand, après le débarquement de Provence, on a pu tirer des tracts. Alors là, on travaillait la nuit, le jour, ils nous envoyaient même du renfort, des jeunes filles pour graffer, pour... Mais non, quand on est revenu du truc de l'hôpital, on était en couverture, quoi, avec eux, et c'était une vraie aventure. Eh ben, c'est le premier truc qu'on a fait, pratiquement, des armes à la main, quoi.
Il y avait d'autres imprimeries du Front National, ben, comme la vôtre.
Il y avait des imprimeries, hein, mais,
oui, mais ben, que c'est vrai,
nous, c'était pas des imprimeries, nous. Hein,
mais des lieux comme vous qui imprimiez des
trucs,
vous avez su après, non?
Certainement, il devait y en avoir. Nous, on était surtout sur Villeurbanne, quoi. Hein. Il y a beaucoup d'usines et tout ça. Sur Vénissieux, il y en avait peut-être aussi.
Oui, vous, c'était Villeurbanne.
Nous, on s'était très cloisonnés, parce qu'autrement, ça aurait été...
Donc, vous êtes retrouvé à Pusignan finalement. Donc, comment ça s'est
voilà,
comment
ça oui, s'est fait? Parce que voilà comme ça s'est passé. Ils avaient préparé le coup du hôpital de l'Anticaille. Et il y avait d'autres, les Moïs, la main-d'œuvre migrée là. Qui, eux, ils avaient programmé de libérer les prisonniers dans les prisons pour Saint-Paul et Saint-Joseph.
Mont-Luc.
Non, pas Mont-Luc.
Pas Mont-Luc.
Les prisons qui sont en train de vendre en ce moment là, à Perrache, pour
Saint-Paul,
Saint-Paul. Oui. Saint-Paul et l'autre, il y en avait les deux noms. Et eux, ils étaient 80. Bonhomme, à peu près, avec les juifs, les UGRP. Mais nous, on ne savait pas, ils ne savaient pas ce qu'on avait fait. Hein. Et ils étaient rue Sontet, eux, pour récupérer les camions de la commune, quoi, et pour aller libérer les prisonniers là-bas. Parce
on était à quelle date, là, vous
savez? Oh, ben, c'était le. Le jour de l'insurrection, le 20. Le 24 août.
Le 20 août 44.
Voilà.
Quand vous dites la libération de l'Anticaille, c'était à quelle date? C'était à ce moment-là?
C'est la même date, même jour, c'est ça le problème là où ça va. Parce que on préparait l'insurrection quand même de Villeurbanne comme le voulait De Gaulle. Hein, parce que quand ça en a été tous unis, mais il fallait que l'insurrection, les troupes régulières soient presque là, parce que c'est pareil, ils voulaient pas que les communistes prennent le pouvoir, et ainsi de suite, hein. Ils nous ont baratinés autrement, mais enfin, c'est... Et oui, on veut pas d'un bain de sang, et patati, et patata, s'ils en faisaient trop tôt, avant que les troupes arrivent, on est installés à la mairie et partout, ça n'allait pas bien pour eux. Bon, mais enfin, bon, ça c'était comme ça. Et ce jour-là, ben, ça s'est trouvé qu'il y a eu deux actions, comme lui, avec les FTP Moy pour ça, ils attendaient le camion, et pour eux, ça s'est pas fait. Parce qu'il y a eu une estafette qui est venue, enfin, et qui a dit c'est pas la peine d'aller là-bas, et ils ont été libérés. Alors que c'était faux, ils ont été libérés le lendemain. Mais enfin, c'était en discussion avec les Allemands et puis les autres. Hein. Et mais nous, bon, on a fait le coup à la Ticaille, ça s'est bien passé, on a les amenés. Tout le monde à la Croix du Banc, là-bas, au maquis de la Croix du Banc. Là.
Mmh. Il y avait combien
là, on était... Bon, tu...
enfin, vous aviez libéré combien de personnes?
Une vingtaine personnes, quoi. Ah. Bon, on rectifiera après.
Oui,
et donc, il y avait un bébé aussi. Avec... et puis, on a arrêté trois miliciens qui étaient... qui était en traitement là-bas, qu'on a emmené aussi là-haut, pour les remettre au maquis, je ne sais pas si on en fait après, et un GMR qui a voulu venir rejoindre le maquis, qui était de garde là-haut, et il est venu pour rejoindre le maquis. Donc il y avait 21 personnes. Alors tout le convoi est parti, on avait deux actions et un camion. Et c'était des camions de. C'était un camion de la Croix-Rouge américaine qu'ils avaient donné là passé un temps et boché en principe. Mais bon, il y en a qui disent on était deux camions et non, je dis on était deux actions et puis un camion.
Et ça s'est passé sans coup de feu,
sans coup de feu, sans rien du tout. Mais ils étaient prêts, hein, et ça avait été négocié aussi avec les personnels de l'intérieur. Ils étaient prêts à partir, hein, il fallait faire vite, hein, il fallait pas. Mais ça, Jim et Tito, là, ils avaient bien organisé le truc. Hein.
Qui c'était, ces Jim et Tito?
C'était
des FTP Moy ou non?
Non, c'était le groupe fond de nous, quoi. C'était des groupes fonds qui faisaient des coups de main pour le Front National, quoi. C'est, ouais. Et c'est un autre nom, après c'est le groupe fond de. Région 5, où je ne m'en rappelle plus. Alors, il y en avait ça, il y en avait plusieurs dans les coins. Il y en avait d'autres qu'on ne connaissait pas. Il y en avait à Vénissieux. Il y avait les Moy qui étaient FTP Moy, mais ils étaient avec le Parti communiste aussi, mais c'était les étrangers. Parce que eux, il y avait des Français aussi, mais Très peu, quoi, par rapport. Mmh. C'était tous des étrangers. Mmh. Beaucoup de Roumains, de...
Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger. Un jour tu passes la frontière, d'où viens-tu mais où vas-tu donc? Demain qu'importe et qu'importe hier, le cœur change avec le chardon. C'est sans rime ni pardon. Pose ton doigt là sur ta tempe, touche l'enfance de tes yeux. Mieux vaut laisser basse les lampes, la nuit plus longtemps nous va mieux. C'est le grand jour qui se fait vieux. Les arbres sont beaux en automne, mais l'enfant qu'est-il devenu? Je me regarde et je m'étonne de ce voyageur inconnu, de son visage et ses pieds nus. Peu à peu, tu te fais silence, mais pas assez vite pourtant, pour ne sentir ta dissemblance et sur le toit même d'antan tomber la poussière du temps. C'est long vieillir au bout du compte, le sable enfuit entre nos doigts, c'est comme une eau froide qui monte, c'est comme une honte qui croît, un cuir à crier qu'on corroit. C'est long d'être un homme, une chose, c'est long de renoncer à tout, et sens-tu les métamorphoses qui se font au-dedans de nous, lentement plier nos genoux. Ô mer amère, ô mer profonde, quelle est l'heure de tes marées? Combien faut-il d'années secondes à l'homme pour l'homme abjuré? Pourquoi tu es si maigre? Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger.
Ainsi se termine cette émission, la première d'une série de deux consacrée au résistant Jean Batias. Cette première émission avait pour sujet l'histoire de sa jeunesse, puis de son engagement de clandestin FTP, jusqu'à son action dans les groupes de combat à Pusignan en août 1944. Vous avez pu entendre successivement les illustrations musicales suivantes. Un extrait du chant des partisans, une version instrumentale. Et puis c'était la chanson de Roger Diver sur une musique de Jean-Claude Simon interprétée par Boris Knapp, Le pain, la paix, la liberté. Et puis un extrait de la chanson Le montreur d'ours de Jean-Michel Cadarec, qu'il interprétait lui-même. Ensuite, c'est André Bonhomme qui, sur ses paroles et sur la musique de Daniel Baume et de lui-même, interprétait sa composition « Chanson d'usine ». Et puis, nous avons entendu un extrait d'une pièce musicale de Gérard Mémone pour un spectacle « Nuit d'Althusser 4 ». C'est un instrumental que Gérard Mémone interprétait avec ses musiciens. Ensuite, Pierre Dac, sur l'air du duc de Bordeaux et sur ses paroles, interprétait le roi des salauds. Et ensuite, disait son texte « Bagatelle sur un tombeau ». Ensuite, à nouveau, un autre instrumental de Gérard Mémone, « Nuit d'Althusser 3 ». Et enfin, sur le texte de Louis Aragon, la musique de Jean Ferrat, l'interprétation d'Yvette Thérolas de la chanson « J'arrive où je suis étranger ». Dans notre future émission consacrée à Jean Batias, nous évoquerons son rôle dans la bataille de Pusignan, puis dans les milices patriotiques de Villeurbanne, et l'histoire de son engagement après la guerre. Nous remercions Jean Batias d'avoir bien voulu accorder cet entretien à Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, et plus particulièrement à l'intérieur de celle-ci à l'émission Bistantlac. Bonsoir.
Quand il chante la femme, son frère, son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistantlac. De la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistantlac. Qu'une chance qu'on les vise, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance en même mètre de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils noircissent le printemps. Qu'une chance qu'on les vise, mais on les claque. Thank you. son frère et son enfant, quand un humain sans flamme, c'est distant, clair. C'est pas de la rengaine, un gavelise, passant pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain sans flamme, c'est distant, clair. Mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance sans même être de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y'a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se raidissent, ils noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les bise, mais on les claque. On se bise, on se bise en claque.